Coucou. Alors, je ne sais pas comment ça marche. Si c'est bon, je regarde un peu à gauche, à droite, parce que je me suis moi aussi mis la vidéo pour pouvoir la voir. Je vois que tout le monde est arrivé. Coucou, Jérémy. Coucou, Gabi. Donc, je vous rappelle que vous avez tous vos micros de coupé automatiquement. Si vous souhaitez parler ou n'importe quoi, il faut que vous coupiez votre micro et le remettez après. C'est pour éviter les larcènes. Bon, Gabi, ça c'était la surprise qui est derrière. Et Jérémy aussi. C'est pour vous vous retrouviez en Guyane. Y a Johan aussi qui se retrouve en Guyane. Alléluia. Oui, ce culte-là est inspiré un petit peu du dernier échange de Barry Adams. Et bien sûr, fortement impacté par ce que tous nous vivons ou nous subissons. Ça dépend un petit peu de la façon dont on le prend. Je discutais juste avant le culte avec Sophie Doré qui me disait que là-haut dans le Nord, c'était pas facile. Effectivement, hein, quand on voit les environs de Mulhouse qui ont été fortement impactés, ça a des effets sur tous ceux qui sont à côté. Et je pense que quand on commence à avoir de la famille ou des amis proches qui sont impactés aussi, ben forcément, on se sent concerné. Et je suis le premier à avoir pris ça un peu à la légère. Et cependant, force est de constater qu'au vu de l'impact sur chaque pays et chaque personne, le monde sera différent. Après cette crise, le monde qu'on a connu avant continuera d'influencer le monde d'après, mais par contre, le monde d'après sera forcément différent de celui d'avant. Et je voulais ce dimanche parler sur quelque chose qui nous conduise sur le chemin un petit peu qu'on est en train de traverser tous ensemble. Et ce matin, nous pourrons lire ensemble le psaume 46. C'est un psaume assez court. Mais qui nous rappelle notre place dans ce monde troublé. Et le Père ne veut pas que nous soyons effrayés au milieu de tout ce qui se passe dans le monde entier. Alors, juste avant, j'aimerais qu'on puisse prier un petit peu de cette situation et prier pour ce culte et demander la grâce de Dieu. Papa, merci de ce que ton amour chasse toute crainte à l'intérieur de nos vies, de ce que Tu enlèves toute peur qui est à l'intérieur de nous et nous te demandons vraiment de venir nous toucher dans ces temps troublés. Nos gouvernements sont ébranlés et au travers de tout ce qui se passe, mais ton royaume, lui, il demeure. Ton royaume continue d'être basé, il est solide et inébranlable. Le fondement de ton amour, lui, ne peut pas être ébranlé. Ce que tu as dispensé à l'intérieur de nos cœurs et là où tu nous as placés, ne peut pas être ébranlé. Tu nous as mis en sécurité dans ta présence. Qu'est-ce que cela signifie que de ne pas avoir peur? Qu'est-ce que cela signifie que d'être caché en toi? Qu'est-ce que cela signifie que de ressentir ta présence et au travers de ces difficultés pouvoir passer? Montre-nous par la sagesse, montre-nous par ton esprit, influence-nous par qui tu es à l'intérieur de nos cœurs et de nos pensées. Envoie ton esprit pour changer et nous permettre de passer cela avec quiétude. Merci Jésus de ce que tu es le prince de paix et de ce que nous sommes cachés en toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de tes conseils pour pouvoir traverser cette situation. Alléluia. Nous prions réellement pour que ta paix s'installe. Merci chérie. Alors on va lire le psaume 46 et je vais le prendre dans la seconde 21. Des descendants de Corée pour soprano et chant. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Le bras d'un fleuve réjouit la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur cette terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Restez tranquille, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Et je crois qu'il n'y a jamais eu de temps comme cela de toute ma vie. J'ai beau réfléchir dans mon passé, j'ai jamais vécu ça. Bien sûr, à l'échelle mondiale et à l'échelle du temps, des temps passés, il y a eu des guerres, il y a eu des épidémies, il y a eu des famines, il y a eu des catastrophes qui ont été nationales. Et toutes sortes de catastrophes peuvent même arriver au niveau personnel. Mais à l'échelle de ma vie, à l'échelle de la vie de la plupart de ceux qui m'écoutent, autant de gens impactés dans le monde en une seule fois, je pense que c'est réellement un temps où l'humanité tout entière a besoin de redécouvrir que Dieu est notre refuge et notre force. Une aide réellement toujours présente. En une semaine, tout a basculé. Je ne sais pas pour vous, mais grosso modo, la semaine avant, je vais au travail, les gens voyagent, etc. Ils vont au restaurant, ils vont prendre un coup au bar, ils discutent, ils se rassemblent, ils font le culte. Et d'un seul coup, en une semaine, tout le monde a été touché quasiment dans le monde entier. Et c'est réellement un temps où cette distanciation sociale, un nouveau mot, une nouvelle expression est venue remplir notre vocabulaire à tous. Et notre pays s'est fermé, les gens se sont fermés aussi, se sont cloisonnés chez eux. Les autres pays nous ont interdit de venir chez eux. Et l'état d'urgence a été proclamé. Tant d'incertitudes dans le monde aujourd'hui contre un ennemi qui ne se voit pas. Les gens ont peur, et c'est une des choses dont je veux parler aujourd'hui. La peur n'est pas malsaine en soi. La peur n'est pas malsaine en soi. C'est un sentiment qui est sain, la peur. De même qu'il existe aussi une peur qui est malsaine. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous soyez au milieu de la route et qu'un camion est en train de vous foncer dessus. Vous avez peur. Et c'est un sentiment qui est sain parce que vous avez peur parce que votre vie, la vie charnelle, est en danger et qu'il faut faire quelque chose. Et la situation dans laquelle vous êtes met en danger votre corps et vous avez peur. C'est normal. C'est une poussée d'adrénaline qui va nous faire prendre les jambes à notre cou et courir. Vous êtes d'accord avec ça? C'est une peur saine. C'est une peur qui est naturelle parce que vous n'allez pas vous mettre en danger ou mettre en danger votre corps. Il y a une protection que Dieu a installée à l'intérieur de notre système humain de façon à ce que nous ne cherchions pas à nous mettre en danger. Et exemple, si vous avez peur des requins, vous n'allez pas nager avec eux en plein milieu. C'est une peur qui est saine, ça évite bien des problèmes. Et c'est normal. Et puis, il y a une peur qui est malsaine. Et celle que je décrirais comme une peur malsaine, c'est si je vivais dans une terreur qui est un petit peu chronique et qui prend le pas sur ma vie. La peur d'avoir toujours un accident de voiture. La peur d'avoir toujours un camion qui me fonce dessus. À ce moment-là, je ne pourrais pas être en paix. J'ai juste peur tout le temps que quelque chose m'arrive, qu'une voiture me fonce dessus. C'est une anxiété qui est continuelle, c'est une peur qui est malsaine. Et ce sont des peurs contre lesquelles certains nous luttons. Je me rappelle quand un jour on avait fait une sortie en canyoning Et on était passé dans un étroit boyau, mais très haut, une falaise d'environ 20-30 mètres, mais on pouvait toucher, nous qui étions dans l'eau en bas, on pouvait toucher de chaque côté de la falaise avec les mains. Donc c'est vous dire que c'était pas vraiment large. Et c'était un peu impressionnant, c'était pour certains angoissant. Et quand on est arrivé le soir, on a discuté avec, il y avait une petite soirée de discussion autour d'un feu de bois, etc. Et les gens se sont mis à parler des peurs qu'ils ont eues à ce moment-là. Ça, franchement, ça s'explique pas, hein. Il y en avait qui avaient peur qu'un rocher ou un caillou tombe dessus. Ça encore, je peux le comprendre. Mais il y en avait qui disaient qu'ils avaient peur que certains jettent un vélo par-dessus la falaise et que le vélo leur tombe dessus. Là, franchement, je suis resté un peu bouche bée face à cette peur et cette angoisse que la personne avait. Au départ, une peur qui est saine peut devenir malsaine avec le temps jusqu'à être obsédée par cette peur. Et dans la situation que dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, quand nous allumons les médias, il y a un tel déluge d'informations, un tel déluge de reportages, que ça peut non seulement créer la peur, mais que ça vient alimenter la peur. Et ce déluge, il est lui-même alimenté par les peurs de l'humanité qui viennent se rajouter. Encore une fois, c'est normal d'avoir peur d'une manière saine face à des choses qui mettent notre vie en danger. Mais quand on a ça tous les jours et sans arrêt, ça vient comme alimenter une peur panique. Or, en tant que chrétiens, nous connaissons la vérité, nous connaissons les promesses bibliques, mais malgré cela, nous nous retrouvons en train de lutter dans nos cœurs par rapport à ces peurs, et nous pouvons même nous sentir coupables d'avoir peur. Parce qu'on n'est pas censé avoir peur. On est chrétien après tout. On croit à la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que nous avons peur? Donc on est en train de se juger nous-mêmes et on a peur des situations dans lesquelles nous sommes et on est en train de s'accuser de ce qu'on est en train de vivre. Et je pense que c'est la sagesse que de demander à Dieu, mais qu'est-ce que c'est qu'une peur saine? Est-ce que la situation dans laquelle je suis, je peux encore la gérer? Est-ce que je la maîtrise? Est-ce que c'est une crise intérieure? Ou est-ce que je suis tout simplement en train de lutter contre quelque chose qui est malsain à l'intérieur de ma vie? Et moi, j'ai aimé, je ne sais pas si vous avez lu sur le poste de La Rivière, mais les paroles de Luther face à l'épidémie de peste noire qu'il y avait eu à l'époque, où il disait, ben, je fais tout ce que je peux pour ne pas être impacté, mais si on me demande de faire quelque chose, je le ferai, parce que tout simplement, il a agi avec sagesse, mais en même temps, il était dans la foi, et si on lui demandait de faire quelque chose, il le faisait. Vous savez, face à la situation, je voudrais pas tenter ou tester ma foi. Si je reprenais l'exemple de tout à l'heure, en disant bon ben, le camion me fonce dessus, je vais rester au milieu de la route et je vais voir que Dieu me protège. Écoutez, je vous laisse avec cette expérience. Moi, je fuirai, je me mettrai sur le trottoir, hein, et on verra qu'est-ce qui se passe. Voilà. Alors, je crois que Dieu nous protège, mais il y a des choses où la sagesse nous parle. Et tout simplement, nous pouvons agir avec sagesse et nous mettre en protection parce que on peut le faire par nous-mêmes et Dieu utilise ce que nous sommes pour pouvoir le faire. Dans la situation actuelle, face à une pandémie de cette ampleur mondiale, il n'est pas anormal d'avoir une saine peur de la situation. Et cette saine crainte nous invite à suivre des directives qui sont données par notre gouvernement. Et qui peuvent limiter l'impact non seulement au niveau mondial, mais aussi pour nos vies propres et pour la vie de ceux qui sont autour de nous. Et encore une fois, le but, c'est là de limiter les contacts sociaux afin de limiter la propagation. C'est une saine peur qui fait qu'on répond sagement à la situation. Mais encore une fois, la distanciation sociale, qui est vraiment un nouveau terme pour moi, m'invite à être un citoyen responsable, un acteur de la santé publique, à aimer mes proches, et à, comme nous nous aimons nous-mêmes, hein, quelque part, à garder nos distances et à ne pas prendre de risques inutiles. Ça, c'est la partie de la saine peur. Cependant, quand je discute avec d'autres personnes, quand j'écoute un petit peu ce que les gens me disent, certains ont peur et ils luttent contre une incertitude qui est forte. Ils s'accusent de cette lutte intérieure et ils en arrivent à être mal à l'aise au fond d'eux-mêmes. Et je voudrais réellement les encourager. Ne soyez pas si durs avec vous-même. En tant que chrétien, même, on arrive à se juger les uns les autres. J'entendais dans certaines situations où un tel va juger l'autre d'avoir peur et de ne pas avoir la foi que Dieu va l'aider ou que Dieu va lui permettre de passer cette situation. Si nous luttons contre la peur et que nous pensons que la peur est une indication de notre manque de foi, eh bien, pour être honnête, quelqu'un qui vient nous juger ou même notre propre jugement, ça ne vient pas nous aider. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais quand je me suis retrouvé en situation où moi-même j'avais peur, où moi-même j'étais angoissé, où moi-même je ne savais plus où tourner les yeux pour sortir de l'impasse dans lequel j'étais, quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, il y a des jours, il y a des moments dans notre vie où on traverse la vallée de l'ombre de la mort, où on a cette sensation désagréable à l'intérieur de nos vies, eh bien, quand on se sent jugé ou accusé par les autres, ou jugé et accusé par nous-mêmes, ça ne vient pas nous aider. Ça en fait, en fait, que empirer les choses. Vous avez déjà vécu ça? J'espère que non pour vous, mais je pense que malheureusement, c'est le lot de tout chacun. Je veux dire par là que si nous luttons contre quelque chose qui nous fait peur, et que nous nous sentons condamnés, et que parce que nous avons un manque de foi, c'est comme un tourbillon. C'est comme une spirale qui vient nous absorber non-stop de la condamnation, du sentiment de malaise et de peur. Et je voudrais nous encourager aujourd'hui parce que Dieu comprend réellement que nous puissions lutter contre certaines peurs et contre des peurs à l'intérieur de nos vies. La peur n'est qu'une partie de la fracture de l'humanité lorsque Adam et Ève ont péché et qu'elle est entrée dans le monde. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est mondialisé, qui peut être effrayant, et encore plus, je dirais, maintenant. Parfois, les gens se débattent avec ce sentiment, comme cela est déjà arrivé par le passé, et nous avons peur d'être honnêtes avec Dieu à propos de nos luttes intérieures. Cependant, lorsque je lis la parole de Dieu, je trouve complètement autre chose. Il n'est pas, lui, en train de nous accuser. Le Père, il aime quand on vient avec honnêteté devant lui, et quelles que soient les luttes que l'on peut rencontrer, il ne nous juge pas, il ne nous condamne pas, il ne nous repousse pas, il nous aime, il a de la compassion pour nous. On y reviendra. Le Père a réellement compassion. Dans le psaume 103, le roi David parle de cela et il parle du cœur de son Père pour nous. Psaume 103, versets 13 et 14. « Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. » Lorsque nous luttons contre ces choses, Dieu voit au travers du vernis qu'on a pu mettre sur nos façades, hein, pour dire « Non, mais moi, j'ai pas peur. Je suis bien, moi, je suis grand, je suis fort. » Mais Dieu voit au travers de ça. Et il voit au travers de notre bravade. Et il voit au travers de nos faux semblants. Oui, j'ai pas peur. Je vais avoir à manger demain. Mais je vais quand même aller acheter à manger, hein, parce que je suis pas très sûr. Et il voit notre fragilité, tout simplement. Alors, je ne dis pas qu'il faut rester dans la peur, même si Dieu le voit. C'est pas parce que Dieu le voit qu'il nous faut rester dans la peur. Mais je dis qu'il ne nous juge pas d'avoir peur. Il a de la compassion pour nous. Il sait d'où nous venons. Il se souvient de la façon dont nous sommes faits, nous dit le psaume. Et il a compassion de nous, nous dit-il. Et c'est pour cela que pendant plus de 300 fois à l'intérieur de la Bible, je crois que c'est 365, quelque chose comme ça, Dieu nous encourage à ne pas avoir peur. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Si Dieu en parle autant, c'est certainement qu'il a quelque chose à nous dire par rapport à ça. S'il nous encourage à ne pas avoir peur, c'est justement parce que nous avons tendance à avoir peur. C'est justement parce que nous avons tendance à avoir des inquiétudes qui se transforment en peur. Et notre Père ne nous juge pas de ce que nous sommes, il sait de quoi nous sommes faits. Il veut juste que nous n'ayons pas peur. Il veut nous calmer face à nos peurs. Il veut gérer l'anxiété. Il veut gérer le stress chronique causé par une racine d'inquiétude à l'intérieur de nos vies, de peur, d'incertitude, de tout ce que nous pouvons rencontrer. Regardez Josué dans l'Ancien Testament. Je vais vous prendre un petit peu d'eau d'abord. Si on regarde Josué dans l'Ancien Testament, Josué, c'est l'acolyte de Moïse pendant près de 40 ans. 40 ans avec quelqu'un qui discutait avec Dieu. 40 ans avec quelqu'un qui dirigeait le peuple et sur lequel finalement il n'y avait rien à faire, rien à ajouter. Il y avait juste à faire ce que Moïse avait dit, tout simplement. Il était là à attendre au pied de la montagne quand Moïse est monté et a rencontré Dieu. Il était là quand il a fallu partir dans voir le royaume promis, hein, le pays promis. Il était là, il a vu le pays promis et il a dû attendre 40 ans après. Il était là quand Moïse est redescendu avec les tablettes et puis que le peuple était parti faire autre chose. Il était là quand il voyait le visage de Moïse briller tellement la gloire de Dieu était sur lui et qu'il fallait mettre un voile sur Moïse. Il était là pendant 40 ans à ses côtés à juste faire ce que Moïse disait. Moïse, l'ami de Dieu, qui se tenait dans la présence de Dieu, qui entendait parler Dieu. Il était celui au travers duquel Dieu parlait à Israël. Pouvez-vous imaginer ce qu'a été ce moment-là pour Moïse, pour Josué, lorsque Moïse a disparu de sa vie? D'un seul coup, Moïse n'était plus, il est parti. C'était le rêve de Moïse que d'aller dans le pays promis, et il ne pouvait même pas réaliser ce rêve. Il se retrouve seul, il y a près d'un million de personnes dans le désert, ils ont l'ordre d'aller envahir le pays promis, mais ils ne sont pas des combattants. Josué n'avait normalement pas à prendre les décisions, et maintenant tous ces gens attendent de lui quelque chose. Mais il ne se sent pas Moïse, il n'est pas une copie de Moïse. Il est Josué. Et Dieu parle à Josué et il lui dit « Tu es l'homme de la situation. » Waouh. Il n'y en a pas un autre derrière moi, là hein? Non, c'est bien à moi que tu parles. C'est toi qui vas prendre le relais. Waouh. Est-ce que vous pouvez imaginer à quoi Josué était confronté intérieurement, même si Josué, je pense, était réellement un leader quelque part, mais il se retrouve d'un seul coup en position number one. Pensez-vous que Josué, à ce moment-là, était là plein de foi? Pas de problème. Je sais avec qui je suis. Heureusement que je suis là. Le peuple va s'en sortir grâce à moi et ma connexion avec Dieu. Est-ce que vous pensez qu'il était comme ça? Je pense pas. Relisons Josué chapitre 1, versets 1 à 9. Pour moi, c'est très clair qu'il a dû se battre contre la peur. Et Dieu va parler à Josué et il va réellement le réconforter. Josué chapitre 1, verset 5. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Voilà que maintenant, Dieu s'adresse directement à Josué. Moïse, mon serviteur, est mort. Ça y est, c'est fini. Hein. Tu ne reviendras pas là-dessus. Ça, c'est les versets précédents. Personne ne pourra te résister Ok, c'est super, c'est très bien. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Super. Maintenant, Dieu me parle direct. Et je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. C'est toi l'homme de la situation. Alors fortifie-toi et prends courage. Super l'appel, hein. On a tous voulu un appel, hein, dans nos vies à un moment donné. Super l'appel. Mais là, finalement, je suis pas si près que ça. Et c'est donc le premier, c'est le sois fort et courageux. Et le verset 7 continue. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Fortifie-toi et aie bon courage. Parce que c'est comme ça que tu vas réussir. Puis au verset 9, il répète à nouveau, et maintenant il dit à Josué, vous savez que quand Dieu se répète, pas quelqu'un pour se répéter pour rien. Hein. Si Dieu se répète, il y a une vraie raison. Hein. Verset 9, ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Voyez-vous, je crois que Dieu n'aurait jamais dit à Josué, n'aie pas peur, sois fort et courageux, ne sois pas effrayé ni épouvanté par trois fois s'il n'avait pas eu peur. Et c'était Josué. Et c'était Josué. C'est pas n'importe qui non plus, quoi. Hein. Et ne t'inquiète pas, où que tu ailles, j'y vais. C'était ça la réponse que Dieu a donnée la troisième fois à Josué. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Et je crois qu'il peut être naturel face à une difficulté à l'échelle mondiale telle que nous la traversons aujourd'hui. Pour certains d'être totalement terrifiés. On a tous des peurs qui sont différentes les unes des autres. Certains vont la vivre comme un petit peu comme ça, d'autres vont la vivre un petit peu comme ça. On ne peut pas juger l'autre de la façon dont il perçoit la peur et le niveau que ça va générer à l'intérieur de lui. Pour certains, c'est réellement quelque chose qui peut être terrifiant. Nos gouvernements ne savent pas quoi faire, ils se débattent, ils font de leur mieux, ils n'y arrivent pas. Il y a tellement d'incertitudes dans ce qui va se passer. Mais je veux encourager en vous disant, comme pour Josué, si vous n'êtes pas fort dans ces domaines, sachez que comme pour Josué, le Père comprend et il ne juge pas. Il n'a pas jugé Josué. Il n'a pas condamné Josué. Il n'a pas empêché Josué de rentrer dans son appel. Il n'a pas empêché Josué d'être béni. Le Père était présent, il lui a juste dit, sois courageux. Il ne lui a pas dit, tu sais, il faut s'adapter ou disparaître. Hein? C'est ce que le mammouth a dit, hein, ou je sais plus, hein, dans l'âge de glace. C'est ce que. Qui c'est qui dit ça au mammouth? Il faut s'adapter ou
Sid.
disparaître. C'est Sid qui dit ça au mammouth, là. Il faut s'adapter ou disparaître. Non, non, il ne lui a pas dit ça. Il lui a dit, sois fort et sois courageux. Pourquoi? Parce que je suis avec toi où que tu ailles. Je suis présent où que tu ailles. Quoi que tu traverses, quoi que tu vives, je suis avec toi. Connaissez la définition du courage? Qu'est-ce que c'est que le courage? Est-ce que c'est quelque chose qui dit, je n'ai jamais peur? Pas du tout. Pas du tout. La définition anglaise du courage, et c'est celle que trouve assez aisément un petit peu. La définition française est légèrement différente, mais la définition anglaise du courage, c'est la capacité de faire quelque chose qui effraie. La capacité de faire quelque chose qui effraie. La force face à la douleur et au chagrin. Quand on parle de courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage est en réalité en présence de la peur. Et donc, quand le père vient voir Josué, Je suis sûr qu'il devait se sentir, Josué, profondément accablé de devoir mener le peuple dans la terre promise. Parce que vous savez, lui, il y avait déjà été dans la terre promise, sur l'ordre de Moïse d'ailleurs, qui avait envoyé 12 personnes, 12 espions pour aller voir la terre promise. Et il avait réellement vu les vrais géants qu'il y avait dans ce pays. Alors il était revenu plein de foi avec Caleb, et à dire à Moïse, bah écoute, on vient de traverser, on a vaincu l'armée de Pharaon, je pense que les géants qui sont là, on peut se les faire sans problème, on peut y aller. Mais ça, c'était il y a 40 ans, pris dans la jeunesse un petit peu et l'insouciance, il venait de vaincre les pharaons, et là maintenant, il a passé 40 ans dans le désert. C'est plus la même chose, il n'a pas le même âge, et on voit bien que émotionnellement, ça doit être un homme légèrement différent de 40 ans auparavant. Enfin, moi, je vois bien qu'il y a 40 ans, j'étais différent d'aujourd'hui. Et lui, les géants, il les avait vus, il sait que le peuple qui est avec lui n'a jamais connu la guerre. Ils sont tous nouveaux. Ah oui, je le fais dans mon pour pas vous infecter. Hein? Et ils sont tous nouveaux, ils n'ont peut-être pas d'armes ou ils ont que les armes qu'ils ont récupérées auprès de Pharaon. C'est pas des combattants, c'est pas des guerriers, c'est pas une armée. Et pourtant, il va falloir aller vaincre des géants, des villes qui ont 12 mètres de fortifications tout autour. Bref, il voit bien l'ampleur du travail. Parce que quand il est revenu voir Moïse, il lui a dit à Moïse, « c'est bon, on peut y aller. » On peut y aller, mais c'est toi le chef quand même, hein. C'est toi le chef, c'est toi qui donne les ordres, parce que tu vas donner les ordres avec Dieu. Voilà. Là, c'est lui qui donne l'ordre. C'est lui qui porte la responsabilité. C'est plus la même. Et il y a des fois des choses dans nos vies qui nous font peur. Et c'est dans notre tête que ça se déroule. Il n'y a pas véritablement un danger. Mais pour Josué, lui, il doit affronter une véritable armée et de véritables géants, il le sait, avec des hommes et des femmes qui n'étaient pas des combattants. Et ce sont des circonstances qui peuvent générer la peur à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, nous sommes dans une circonstance qui peut générer ce type de peur. Mais le Père veut venir à l'intérieur de chacun de vous et de chacun de nous en tant que Père pour dire « sois juste courageux ». Sois juste fort et courageux. Pourquoi? Parce que tu es vraiment capable, parce que tu as, etc., etc., etc. Non, non, non. Parce que je suis avec toi. Je suis avec toi. Tu peux te cacher en moi. N'aie pas peur. Tu n'as pas à avoir peur parce que je suis avec toi. La foi, ce n'est pas la négation de la situation. Nous serions stupides si nous ne connaissions pas qu'il y a des problèmes dans ce monde, on serait complètement à côté de la plaque. La foi, c'est juste choisir de croire ce que le Dieu de lumière dit, plutôt que de croire ce que le Père du mensonge dit. Et le vrai combat, il est là. Le vrai combat, il est dans nos pensées. En tant que chrétiens, nous n'avons pas à nous sentir petits, coupables, de ce que nous avons peur, de ce que les autres pensent de nous, et de ce que des fois nous pensons que nous ne devrions pas avoir peur, et alors on s'en veut, mais nous devrions au contraire penser que le Père est avec nous, au milieu du chaos. Il est présent avec nous au milieu de l'incertitude. Peu importe ce que nous vivons, peu importe si nous sommes touchés par le coronavirus, peu importe si nos amis sont touchés, ce que nous avons à faire face, et c'est un véritable réconfort de savoir qu'il est là, où que nous allions, il sera présent. Vous savez, j'entendais quelque chose aux informations qui m'a vraiment touché, auquel j'ai pensé longtemps après. Il y avait des gens qui racontaient, c'était une infirmière qui racontait un de ses patients qui est décédé et qui lui a dit à l'infirmière, c'est comme ça que je meurs. Je suis seul, sans ma famille, c'est comme ça que je meurs. C'est ça ma mort. C'est impactant. Il était seul, sans sa famille et ne pouvait pas faire venir sa famille. Il était seul. Eh bien, voyez-vous, je pense que là est la différence. Où que nous allions, même seul à l'hôpital, il est présent. Il est là. Il est vivant. Il est avec nous. Il est toujours avec nous. Jésus a dit dans Jean, chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit tout cela pour que confiant en moi, c'est-à-dire en ayant la foi, c'est la version du message que j'ai choisi en traduisant, vous soyez inébranlable et assuré, profondément en paix. Dans ce monde impie, vous continuerez à connaître des difficultés, mais prenez courage. J'ai conquis le monde. » Notre version française dit « J'ai vaincu le monde. » Quand Jésus a parlé à ses disciples, il dit « Vous allez avoir des problèmes dans ce monde. Tu vas avoir des problèmes dans ce monde. Il va y avoir des choses qui vont se jeter contre toi, mais prends courage, sois réconforté, parce que j'ai vaincu le monde. » Alors, c'est pas que nous allons pas avoir de problèmes, c'est pas ça. Mais il nous faut s'éveiller au plus profond de notre être, que Dieu élève toujours présent dans les moments difficiles. Le psalmiste du psaume 46 nous le dit, nous avons des difficultés, nous aurons des difficultés, la terre tremble, les tsunamis passent, etc., etc. Mais peu importe les difficultés qui se présentent à nous, la présence de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu est la plus grande que tout ce que nous pouvons vivre à côté. Dans Philippiens 4, versets 6 et 7, Paul écrit ces mots. Ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voyez-vous, faites connaître tous vos besoins à Dieu, et parce qu'il est là, parce qu'il est là. Et c'était le sujet de dimanche dernier, quand nous avons travaillé sur la prière, l'intercession, la supplication, la prière en accord, et toutes les formes de prière, c'était un enseignement là-dessus. Parce que nous pouvons faire et exprimer nos besoins à Dieu, nous pouvons avoir cette assurance qu'il gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Alors, comment est-ce que nous pouvons avoir la paix de Dieu? Comment est-ce que nous pouvons être rassurés par la paix de Dieu? Le verset 9 de ce même livre nous répond, Paul écrit, « La paix de Dieu qui transcende toute compréhension gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. » Il dit, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. » Souvenez-vous qu'il a dit qu'il était lui-même l'imitateur de Christ. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Ce système mondial est réellement effrayant. Cette pandémie est incertaine. Nous ne savons pas où nous allons, comme Josué. Mais la présence de Dieu, du Dieu de paix, apportera la paix, rassurera, et c'est là notre foi. C'est là notre foi. Son amour, naturellement, va chasser nos craintes. Quand un enfant a peur et qu'on le prend dans les bras, vous avez tous fait cette expérience pour ceux qui ont des enfants, il est rassuré. Il sait que papa est là. Il va gérer la situation. Et il y a des fois quand, justement, les peurs qui nous ont le plus marqué, c'est quand papa n'était pas là. C'est quand le papa qui aurait dû sécuriser ou la maman qui aurait dû réconforter n'était pas là pour apporter ce soin dont il avait besoin. Et ça, c'est venu graver dans sa tête qu'il y a des moments où il se retrouve seul face aux difficultés. Romains 16 nous dit au verset 20, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Ce n'est pas de notre ressort que de gérer la situation et de nous sortir de là. Il faut juste être capable de comprendre, de nous ancrer, de nous laisser nous enraciner avec conviction dans le fait que le Dieu de paix est avec nous. Il nous aime. Et parce que le Dieu de paix est avec nous, nous pouvons affronter les choses avec courage. Nous pouvons y aller avec courage. Est-ce que quand on va à la bataille, on n'a pas peur? Tous les grands de ce monde qui ont été courageux ou cités comme des héros vous diront qu'ils se sont retrouvés dans la situation et ils ont été courageux, mais ils ont eu peur. De la même manière, il est normal d'avoir peur, mais le Dieu de paix, c'est son boulot, c'est son travail, c'est sa réalisation, c'est pas à nous de le faire, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Dans chaque situation, la Bible nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec une attitude de reconnaissance et la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, tout ce que l'on peut imaginer, tout ce que l'on peut raisonnablement penser, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. N'ayons pas peur d'être vrais avec Dieu, réels dans nos luttes, mais soyons réconfortés par le fait que Dieu a promis d'être avec nous. Et c'est là qu'il dit dans Hébreux 13, 5, ce que Dieu a dit, je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai pas. Ce sont là les paroles que Dieu a adressées à Josué dans l'ancienne alliance, et c'est là les paroles que Dieu nous donne dans la nouvelle alliance. Moi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on est avec toi, et on est dans une alliance qui est meilleure. Parce que nous sommes en lui, il est en nous, il est caché dans le sein du Père. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes le lieu de repos de la Trinité. Il est à l'intérieur de chacun de nous, ce que dans l'ancienne alliance, ils n'ont jamais vécu. Dans la nouvelle alliance, nous avons la chance de pouvoir le vivre. Donc, quand toutes ces choses extérieures nous arrivent et que nous avons peur, et que nous lisons ou regardons les nouvelles, que nous entendons toutes ces choses autour de nous, si nous ne faisons pas attention, alors que nous sommes bombardés par ces informations, nous pouvons en oublier notre foi. Nous pouvons en oublier qu'il est présent avec nous tous les jours. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas à faire face à des choses difficiles dans notre vie. Il est avec nous, il nous aide à traverser, mais ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas des choses difficiles à traverser. Je me souviens de Anne-Marie, qu'on avait la chance encore d'aller voir il y a une semaine, mais que depuis une semaine on ne peut plus aller voir, qui a un cancer et qui traverse cette épreuve avec foi, courage, mais avec des hauts et des bas. Je me souviens de mon épouse qui a traversé ces deux cancers avec foi, avec courage, mais avec des hauts et des bas. Quand on passe dans des moments comme ça, il y a des hauts et des bas et c'est normal. C'est normal. Celui qui dit qu'il est dans une totale confiance se trompe lui-même. Celui qui dit qu'il est parfaitement dans la foi à tous les instants se trompe lui-même. En tous les cas, au début, peut-être à la fin aura-t-il acquis suffisamment de confiance en Dieu pour pouvoir passer ça. Mais si l'on est honnête, on ne peut pas dire que l'on n'a jamais eu peur. On a traversé toutes nos épreuves sans avoir peur du lendemain ou peur pour nos propres vies. Et dans ce cas-là, c'est le moment d'aller dans sa présence, d'être honnête et de reconnaître nos peurs et nos craintes. Comme le dit Pierre, 1 Pierre 5, 6 et 7, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Quand nous sommes intègres et que nous sommes honnêtes avec nos luttes, quand nous sommes terrifiés avec un sentiment d'impuissance, le réconfort du Père vient à l'intérieur de nos cœurs. 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4, Paul dit: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Père de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions. Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Vous savez, pour Anne-Marie, quand je vais la voir, des fois c'est en bas, des fois c'est un peu plus haut. Et je pense qu'elle a fait l'expérience d'un Dieu qui l'aime et de l'amour de Dieu comme jamais jusqu'à présent. Jamais jusqu'à présent. Quand vous discutez avec elle, vous voyez que dans son cœur, la situation l'a transformée. Elle a une relation avec Dieu que jamais elle n'a eue auparavant. Quand vous discutez avec mon épouse, c'est exactement pareil. En fait, elles ont fait l'expérience de la bonté et de l'amour de Dieu à un niveau qu'elles n'avaient jamais connu auparavant. Ce n'est pas qu'elles n'ont jamais eu de problème, mais au milieu des problèmes, elles ont vécu la paix dans la tempête. Vous savez, c'est un peu comme ce passage où Jésus dort dans la barque. Alors, c'est un passage que j'ai souvent utilisé pour l'évangélisation, parce que Jésus dort dans la barque et les disciples réveillent et la situation change. Et parce qu'ils pensaient vraiment qu'ils allaient périr, ils pensaient vraiment qu'ils allaient mourir, hein, voilà. Et pourtant, Jésus dormait dans la barque. Des fois, on a un Dieu qui dort dans la barque et il faut qu'on aille le réveiller. C'est souvent comme ça que je l'ai utilisé. Mais on peut aussi voir que nous sommes les fils de Dieu, nous sommes les filles de Dieu, et Jésus le Fils dormait dans la barque alors que la tempête grondait, alors que la mort était quasiment certaine pour les disciples, pour ceux qui étaient à côté de lui, pour ceux qui étaient ses amis, puisque les disciples étaient ses amis. Et lui, il arrivait à dormir au milieu de tout ça, parce qu'il y avait la paix dans son cœur. S'il n'avait pas été en paix, il n'aurait pas dormi. Eh bien, voyez-vous, on peut aussi voir ça. Nous sommes les fils et les filles de Dieu, qui sommes capables de vivre au milieu de la tempête, à un niveau irraisonnable, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, dans la paix, dans la paix. Dieu est appelé le Père des compassions et le Dieu du réconfort, c'est ce que nous dit ce magnifique verset. Et le mot latin pour compassion signifie souffrir ensemble. Ça nous aide à comprendre à quel point le Père est proche de nous, de vous, de moi. Il est avec nous où que nous allions et il passe la difficulté, il souffre, entre guillemets, avec nous pour traverser cette difficulté. Alors, on peut commencer à comprendre le psaume 34, verset 18. Si on le lit ensemble, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui sont dans l'esprit abattus. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Voyez-vous, Dieu est proche de nous quand on a le cœur brisé. Il ne nous quitte pas, il ne nous réprimande pas à cause de notre manque de foi. Je crois qu'il comprend réellement ce que nous traversons, mais il ne veut pas que nous restions dans l'incrédulité, le manque de foi et la peur. Il veut nous apporter le réconfort. Des fois, quand c'est trop dur ou quand ça a été trop dur dans ma vie, je me rappelle, on passe comme dans un mode pilote automatique. On est là, c'est dur, vous voyez votre femme qui est dans la maladie, vous priez, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, la situation spirituelle n'est pas extraordinaire, et il faut pourtant vivre chaque jour. Alors on passe dans un mode comme pilote automatique quand on prie vers Dieu, puis on lui dit « mais pourquoi tout ça? Montre-moi que tu es là, je ne sens pas ta présence. Où es-tu, papa ?» C'est exactement ce que Job a dit aussi. « Où es-tu? Où es-tu ?» C'est ce qu'a compris Philippe quand il a dit « mais oui, mais il faut juste que tu sois là. Montre-nous le Père et ça nous suffit. » Quand on prie comme ça, alors Dieu réveille nos sens et on commence à voir différemment, comme Job a vu les choses différemment. On commence à voir au milieu de la période stressante que nous traversons qu'il marche à nos côtés, qu'il s'identifie à notre douleur, il partage nos souffrances. Il est un père rempli de compassion. Et la compassion signifie souffrir ensemble. Et quand il y a la prise de conscience de cette proximité, on peut ressentir son amour et voir les choses différemment. Le réconfort vient au-delà des mots, au-delà du descriptible, au-delà de la raison, le réconfort vient et prend la place. Quoi qu'il arrive dans notre monde, dans notre communauté, dans notre pays, ce virus qui se jette contre nous, le Père veut que nous sachions à quel point il est proche de nous et qu'il est là où on va. Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu a dit, je ne vous quitterai pas, je ne vous abandonnerai pas. Je suis avec toi où que tu ailles, tous les jours. Laissons-nous nous éveiller à la proximité de Dieu et à sa bonté, au milieu de tout ce qui se passe dans notre vie. Ainsi, les racines de l'amour de Dieu iront plus profondément dans le sol de notre cœur. Regardez dans Romains, chapitre 8, versets 35 à 39. Il écrit, c'est Paul qui écrit, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? De fait, il écrit, « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans notre Seigneur Jésus-Christ. » Avez-vous noté les mots qu'utilise Paul ? Je suis convaincu, en d'autres traductions, je suis persuadé, j'ai l'assurance. Est-ce que vous pensez que Paul a acquis cette conviction, cette persuasion, cette assurance, en claquant les doigts comme ça, d'un seul coup ? Je pense qu'il y a eu des moments où Paul n'était pas convaincu. Je pense qu'il y a eu des moments où Paul n'était pas persuadé. Je pense qu'il avait besoin d'être persuadé. Et à ce moment-là, pourtant, quand il est en train de citer ce passage dans ce livre, il était persuadé et convaincu. Comment est-ce qu'il est passé de l'un à l'autre ? Je pense qu'il est passé par l'épreuve et qu'il a vu que Dieu est resté présent dans toutes les situations et qu'il l'a aidé à passer. Vous ne croyez pas cela ? Quoi qu'il arrive, la nudité, la famine, les dangers, l'épée, la persécution, les difficultés, les ennuis, tout ce qui peut arriver, il est arrivé à un moment donné de sa vie où il a été persuadé et convaincu au plus profond de son être, dans son cœur, pas dans son intelligence, que rien dans la création ne pouvait le séparer de l'amour de Dieu, l'amour du Père, manifesté en Jésus-Christ. La séparation de l'amour de Dieu n'est qu'une illusion. Écoutez bien ça. La séparation de l'amour de Dieu n'est qu'une illusion. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Dieu n'a pas de bouton off à son amour. Ce n'est pas possible. Jésus, sur la croix, a pu dire à un moment donné, « Père, Père, m'as-tu abandonné ?» Mais avant la croix, il a dit, « Le Père ne m'abandonnera jamais. » Avant la croix, il savait que le Père ne l'abandonnerait jamais. Il a pu sentir à un moment donné, au travers du péché, au travers des difficultés, que c'était comme s'il ne sentait pas la présence du Père. Mais la séparation en réalité de l'amour de Dieu n'est qu'une illusion. C'est qu'une illusion que nous ressentons dans nos vies. Ce n'est qu'un sentiment. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, si vous avez du mal à croire, si vous vous sentez isolé, et c'est d'autant plus vrai qu'il y a des mesures de distanciation sociale dans lesquelles nous devons nous retrouver seuls à la maison, que beaucoup de gens se sentent seuls, si vous vous sentez en quelque sorte séparé de la proximité de Dieu, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Paul en est arrivé à cette conclusion à un moment donné dans sa vie, et il n'y est pas arrivé comme ça. Il y est arrivé parce qu'il a traversé l'épreuve et qu'il a vu que Dieu est resté présent. Et je pense qu'en termes d'épreuve, si vous lisez la vie de Paul, il y connaissait quelque chose. Romains 8, 37 nous dit « Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Voyez-vous, L'amour va changer notre perception des choses. L'amour que nous allons recevoir de lui, cette relation d'amour que nous avons avec lui, va changer les choses. Le Père veut nous rencontrer là où nous en sommes aujourd'hui. Si tu as peur, c'est son amour dont tu as besoin. C'est son amour, c'est pas de lutter contre ta peur, c'est de te laisser aimer par lui pour chasser la peur. Alléluia, face aux incertitudes de la vie. Parce que l'incertitude va rester. Les géants sont restés devant Josué. Les situations qu'a traversé Paul sont restées, elles sont même empirées parfois. Mais le Père a été présent dans toutes les situations et lui a donné de vaincre. Il suffit juste d'être honnête avec Dieu et de lui déclarer « J'ai du mal avec ça, ça me fait peur, aide-moi, déverse ton amour sur moi, répands ton réconfort, donne-moi la paix à un niveau de compréhension qui n'existe pas, garde mon cœur et mon esprit dans ce monde qui est terrifié avec des médias qui parlent continuellement de ça, garde ma paix. » Et nous pouvons avoir une paix qui est au-delà des circonstances et même au-delà de toute pensée rationnelle qui dépasse notre raison, la raison étant ce qui dirige notre monde occidental pour la plupart. Elle dépasse tout ça. Les gens vont dire en nous regardant, mais comment tu peux avoir la paix alors qu'il se passe ça à l'intérieur de ta vie? Les gens vont dire à Anne-Marie, mais comment tu peux avoir la paix? Et ils lui disent, alors que tu as un cancer et qu'on est en train d'essayer le dernier traitement pour toi, comment tu peux avoir la paix? Ça dépasse la raison, ça dépasse la compréhension en raison de la proximité de Dieu, parce que Dieu est présent et le Dieu de paix sera avec nous où que nous allions. Voyez-vous, il y a une histoire dans Marc au chapitre 9, versets 14 à 29, où cet homme s'est approché de Jésus et son fils était pris dans des tourments et vous savez, il va lui dire, mais peux-tu le guérir? Alors, je vais juste prendre 2-3 versets de l'histoire, vous connaissez l'histoire et si vous avez envie de la lire, vous pouvez reprendre à l'intérieur de la Bible, mais il va lui dire, mais si tu peux faire quelque chose, viens à mon secours, aie compassion de nous. Et Jésus va lui répondre, si tu peux, ben, tout est possible à celui qui croit. Hein? Voilà. Si c'est pas possible, c'est parce que tu ne crois pas. Les gens vont interpréter ça comme ça, mais c'est pas du tout ce qu'est en train de dire Jésus. Ça, c'est les gens qui accusent. Ça, c'est ce que toi-même, tu vas te donner à toi-même pour t'accuser. C'est pas comme ça que Jésus pense. Aussitôt, le père de l'enfant, en larmes, il est écrit, s'écrit, je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Cette phrase, elle paraît impossible. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Et en réalité, ce qu'il est en train de dire, c'est, il dit, mais je crois que tu existes, je crois que Dieu existe, je crois que tu es Dieu, je le crois. Par contre, j'arrive pas à croire que mon fils puisse être guéri. Mais ce que tu es en train de dire, vous voulez dire que je ne pourrais pas voir mon fils guéri. Donc, je veux pas ne pas croire. Donc, je veux croire. Donc, viens au secours de mon incrédulité pour que je puisse voir mon fils croire. Vous croyez pas que c'est ce qu'il est en train de dire? Moi, je crois que c'est ce qu'il est en train de dire. Et il a juste été honnête. Je crois, mais j'ai du mal à croire pour ça. Et ce genre de prière honnête, est-ce que vous pensez que sa foi, elle a été comme ça, là, boum, il avait plus de problème avec la foi, il croyait parfaitement. Est-ce que vous croyez ça, instantanément, là, comme ça? Non, je crois pas. Je crois que la situation n'a pas changé, il a juste été honnête avec Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, son fils n'a pas été guéri parce qu'il ne croyait pas. Hein, si on l'interprète tel que certains essayent de nous juger au travers de cette parole, son fils n'a pas été guéri. Mais pourtant, son fils a été guéri. Parce que ce genre de prière honnête a été suffisant pour que Jésus guérisse le jeune homme. Dieu aime et il n'y a pas de bouton off à son amour. Maintenant, sa compassion est là. Maintenant, son amour est là. Maintenant, sa miséricorde est là. Maintenant, sa bonté est là. Et son amour nous enveloppe. Par-dessus, par-dessous, par-devant, par-derrière, par-côté, Son amour nous enveloppe. Il comprend avec quoi nous luttons. Il ne nous juge pas, il ne nous condamne pas. Il est là pour nous, il est là pour moi, il est là pour toi. Il est en train de nous dire, n'aie pas peur, mon fils, ma fille, où tu vas, je vais. Je serai avec toi jusqu'au bout du monde. Il n'y a rien dans la création qui puisse t'atteindre et te séparer de mon amour que j'ai pour toi et qui a été manifesté en Jésus-Christ. C'est absolument merveilleux. Et plus nous serons éveillés à cela, plus nous pourrons nous nicher dans son amour, plus nous reconnaîtrons que son amour prend toute la place à l'intérieur de nous, plus les choses changeront dans nos cœurs. 1 Jean 4, 16, « Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Aujourd'hui, je pense que le monde vit une nouvelle occasion, comme nous-mêmes, pour nous, pour moi, pour toi, de vivre dans son amour et de se laisser aller en lui, de le laisser prendre les préoccupations, les soucis, les craintes, de s'adresser à lui. Nous n'avons pas à faire peur, nous n'avons pas à faire face à la peur. Dieu ne nous a pas créés pour vaincre la peur, pour nous débarrasser de la peur par nos propres vies, par nos propres forces. Mais nous avons juste à nous laisser envahir de son amour pour chasser la peur, parce que son amour pour nous chasse la peur. Et il faut juste venir avec honnêteté. Et vous savez quoi? Je crois que même lorsque nous venons sans honnêteté devant Dieu, même lorsque nous venons avec une façade en disant « mais j'ai pas peur », même lorsque nous nous cachons derrière des feuilles de figuier pour aller devant Dieu et lui dire « mais non, mais tout va bien, j'ai pas peur », mais viens au secours de mon incrédulité quand même. Il comprend cela et il agit. Il ne nous accuse pas et il ne nous condamne pas, il ne nous juge pas, il nous aime. Alors, est-ce que nous obéirons quand même à notre gouvernement? Bien sûr que nous le ferons, par sagesse, comme je vous l'ai dit au début. Resterons-nous à l'écart des gens tant que cela est nécessaire? Oui, nous le ferons. Mais si je dois venir en aide à mon prochain, je le ferai. Est-ce que nous nous lavons les mains et faisons tout ce que nous pouvons? Oui, bien sûr, je le ferai. C'est se soumettre à nos gouvernements et ces choses ne sont pas mauvaises, elles ne sont pas contre Dieu. Mais quand nous passons de la peur qui est saine à une peur qui est malsaine, à une peur sans fondement et chronique, il nous faut à ce moment-là changer le regard sur la vie et la façon dont nous voyons les choses. Si nous regardons juste les circonstances et les chiffres qui montent chaque jour aux infos, ça peut être très décourageant et effrayant, mais je crois que quand nous vivons dans sa présence, je crois que Dieu veut juste que nous élevions notre regard vers lui. Le psaume 3 nous dit « Beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. » Il y en a qui disent ça, hein. Vous savez, les amis de Job, il y en a qui ont dit ça. « Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. À pleine voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Si tu es abattu, il veut relever ta tête. Il veut mettre son doigt sous toi et relever la tête pour que tu vois non pas les choses terrestres, mais les choses divines qui viennent d'en haut, que tu vois non plus avec une perspective qui est uniquement terrestre, des choses qui sont finies et visibles, que tu vois et que tu comprends avec les yeux de ton corps, mais que tu puisses voir avec les yeux du cœur les choses invisibles qui sont au-delà du naturel, des circonstances actuelles, pour que tu puisses ne pas perdre courage. 2 Corinthiens 4, 16 et 18 nous dit « Voilà pourquoi ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alors nous regardons non pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Je disais à Anne-Marie l'autre jour, j'étais avec elle, on était en forme tous les deux, et je suis toujours assis au pied du lit parce qu'on ne peut pas, ça fait longtemps qu'il y a de la distanciation sociale entre nous puisqu'elle n'a pas d'anticorps. Et je disais, mais tu sais, dans 200 ans, on sera tous les deux et on discutera tous les deux. Regardez aux choses invisibles et non pas aux réalités visibles qui sont passagères. Les invisibles, elles, sont éternelles. Hébreux 12 nous dit, nous parlons de l'opposition. Hébreux 12 nous dit, nous aussi donc, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Il y a devant nous une épreuve qui nous est proposée. Courons dans cette épreuve. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, celui qui a manifesté comment vivre une vie de fils envers le Père, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Alors je ne nie pas que les choses sont difficiles, effrayantes, pour ceux qui y sont confrontés, pour vous comme pour moi, mais notre prière est que Dieu, dans sa miséricorde et sa grâce, apporte la guérison à chaque personne qui est blessée, à chaque personne qui est malade, que ce virus soit réellement maudit et tombe à la destruction et qu'il meure au nom de Jésus. Mais même si nous revenions à la normale, nous pourrions quand même avoir des luttes, nous pourrions quand même avoir des épreuves, et le Père ouvrirait nos yeux aux choses qui sont invisibles et notre cœur aux choses qui sont invisibles de façon à voir son royaume. Éphésiens 1:17 nous dit, et c'est la prière que j'aimerais faire, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Les deux sont nécessaires, la sagesse et la révélation, qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Nous allons nous laisser remplir d'une plus grande révélation de son amour. Dans votre situation, et je ne sais pas où vous habitez tous, si, peut-être, je ne sais pas si je vois tout le monde. J'ai vu des noms que je ne connais pas d'habitude, donc je ne sais pas où c'est qu'ils habitent ceux-là. Mais il y a quelque chose dans notre monde qui vous fait craindre d'avoir l'impression d'être entouré de problèmes. Je vous encourage à savoir que Dieu est présent là où vous êtes, dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que Dieu est une aide réelle dans les temps difficiles. Et je crois que pour le peuple de Dieu, il y a réellement une promesse et un repos parce que Dieu est avec nous où que nous allions. Et je vous encourage à ouvrir votre cœur dès maintenant. Je vais terminer par une prière qui est la prière de Paul aux Éphésiens. Non, je prendrai un dernier verset. Mais je vais prendre quand même la prière de Paul aux Éphésiens. Éphésiens 3:16, je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ dans les quatre dimensions, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. C'est au-delà de ce que nous pouvons voir et comprendre, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, elle agit en nous cette puissance, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, au-delà de ce que vous avez besoin. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour des générations et au siècle des siècles. Amen. Et c'est comme ça qu'il termine sa lettre. Là où vous allez, le Père, le Fils et le Saint-Esprit y vont. Il comprend que nous avons peur. C'est pourquoi il nous dit d'avoir bon courage, d'être fort. Je suis avec vous. N'ayez pas peur. Je suis avec vous où que vous alliez. Je comprends pourquoi tu as peur. Peu importe. C'est pourquoi je te dis, n'aie pas peur. Dans mon amour parfait, je chasserai tes peurs. Et je terminerai par le psaume 23. Et je le déclarerai sur chacun de nous, ici. Psaume de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui me rassurent et me réconfortent. Tu dresses une table devant moi et tu fais déborder, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Waouh. Amen, amen. Voilà, j'espère que ce message vous a encouragé et vous a apporté ce dont vous aviez besoin. C'est pour moi... Le seul lien que nous pouvons avoir, c'est ce lien qui est au travers de la réunion par Internet. Mais croyez que j'ai l'assurance que le Père vient dans votre cœur, vous entourez, vous aimez. Il vient dispenser toutes ces bonnes paroles. Fortifiez votre foi au-delà du raisonnable. Fortifiez vos cœurs au-delà du raisonnable. Mettre sa paix ou convaincre, comme Paul a été convaincu, qu'il est présent et que rien ne vous séparera de son amour. Alors oui, nous sommes dans un monde qui a des tribulations, mais il est présent. Waouh! Qu'il puisse, que le Père là vienne dans ces instants et mette ses bras autour de vous, parce que lui ne va pas faire de distanciation sociale, qu'il mette ses bras autour de vous et que son cœur se déverse en vous. Sentez sa présence. Sentez sa présence. Sentez sa présence. Est-ce que l'enfant comprend toutes les situations? Non. Mais il est complètement rassuré parce que son père est présent. Et nous sommes dans la même situation. Josué savait qu'il y avait des gens devant lui. Josué savait que le peuple qui était avec lui n'était pas des combattants. Josué savait l'âge qu'il avait. Josué savait qu'il ne pouvait plus s'appuyer sur personne, qu'il était seul avec Dieu. Mais il a appris à se fortifier, à prendre courage, à ne pas rester effrayé, ni avoir peur, ni être épouvanté. À juste se laisser aimer. Et je pense qu'à la fin de sa vie, il était différent. On en apprend à tout âge. Amen.